Bienvenue, si vous nous rejoignez, vous regardez BFM Grand Soir. Une question ce soir, que faut-il retenir du plan Trump pour la paix à Gaza? Le président américain a reçu Benjamin Netanyahou à la Maison Blanche. Un projet en 20 points qui a été accepté visiblement par Netanyahou, mais qui doit encore l'être par le Hamas. On va en parler en plateau avec nos spécialistes Didier François, Ulysse Gosset. Sont avec nous également Bruno Jeudy, Rachel Binas et Jean-Marc Silvestre. Mais j'aimais, si vous voulez bien, aller faire un petit tour devant la Maison Blanche, retrouver Antoine Lard. Antoine, en quoi consiste donc ce plan en 20 points pour la paix à Gaza?
Écoutez, c'est un plan qui prévoit notamment la fin des combats à Gaza, le retour de tous les otages dans un délai de 72 heures. Tous les otages, c'est-à-dire ceux qui sont encore vivants, mais également la dépouille de ceux qui sont morts pendant qu'ils étaient retenus par le Hamas. Ce plan prévoit également le retrait progressif de l'armée israélienne à Gaza. Là-dessus, il n'y a pas beaucoup de détails. On ne sait pas exactement à quelle vitesse l'armée israélienne, à quel rythme elle va se retirer. En échange, l'État hébreu accepte de faire plusieurs concessions, notamment la libération de 1700 prisonniers palestiniens et 250 palestiniens condamnés à mort, c'est-à-dire condamnés pour des actes de terrorisme, des personnes qui ont du sang israélien sur les mains. C'est une concession donc importante qui est faite par Israël. Il y a aussi cette immunité qui serait garantie aux combattants du Hamas s'ils acceptent de déposer les armes. Le plan prévoit également le retour de l'aide humanitaire et l'assurance qu'aucun palestinien ne sera forcé de quitter la bande de Gaza. Alors, vous l'avez dit, Benjamin Netanyahou a accepté ce plan. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré tout à l'heure devant les journalistes. Désormais, la balle est dans le camp du Hamas, l'organisation terroriste qui s'est vue remettre ce plan dans la foulée de la conférence de presse de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou. Et Trump met la pression sur le Hamas en disant que si l'organisation terroriste n'accepte pas, alors Israël pourra reprendre ses opérations militaires. Écoutez.
Israël a mon soutien pour terminer le travail de destruction de la menace qu'est le Hamas. Mais j'espère qu'on va trouver un accord de paix. Et si le Hamas n'accepte pas cet accord, c'est toujours possible. Il n'y a plus que tout le monde a accepté l'accord. Mais moi, j'ai le pressentiment que la réponse va être positive. Mais sinon, Bibi, vous savez que vous avez mon plein soutien pour faire ce que vous avez à faire.
Alors Trump s'est montré extrêmement optimiste sur ses chances d'aboutir à un accord final. Il dit qu'on est très très proche d'un deal. Reste que certaines clauses ou certains aspects de ce plan sont des lignes rouges pour le Hamas, notamment la démilitarisation de la bande de Gaza. Donc on verra ce que répond le Hamas. On voit aussi que Trump a dû mettre un peu de l'eau dans son vin, entre guillemets, dans ce plan pour que Benjamin Netanyahou monte à bord. Notamment la question de savoir qui va gouverner Gaza lorsque l'armée israélienne se sera retirée. Dans un premier temps, les Américains envisageaient de donner un rôle important à l'autorité palestinienne. Finalement, ce ne sera pas le cas. C'est un comité international qui sera chargé de la gouvernance, avec à sa tête le président américain lui-même, Donald Trump.
Merci beaucoup, Antoine Lard. À l'instant, cette réaction d'Emmanuel Macron. Je salue l'engagement du président Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza et obtenir la libération de tous les otages. Ulysse Gosset, est-ce qu'il peut y avoir réellement, dans les toutes prochaines heures, un accord entre Israël et le Hamas? Visiblement, les médiateurs qataris et égyptiens viennent de remettre le plan de Trump au Hamas.
Oui, alors ce qu'il faut quand même rappeler, c'est l'événement de la soirée, c'est-à-dire l'annonce par Donald Trump d'un plan de paix pour Gaza, accepté par le Premier ministre Netanyahou. Si on traduit, on peut dire que Trump a tordu le bras de Netanyahou, qui ne pouvait pas l'accepter en raison de l'opposition de ses ministres les plus extrêmes, qui pensaient plutôt à une annexion de la Cisjordanie. Donc l'important ce soir, c'est que Trump annonce ce plan. Non seulement il l'annonce, mais en plus il en prend la direction, puisqu'il est, il s'est autonomé, si j'ose dire, président du Conseil pour la paix, qui va être établi avec trois États chargés de faire appliquer ce plan. Les États-Unis bien sûr, Israël et le Qatar. Alors bien entendu, ce soir le Hamas n'a pas encore accepté, mais on voit mal comment il pourrait refuser ce plan, qui prévoit, rappelons-le, c'est plusieurs étapes. D'abord un cessez-le-feu, c'est le plus important. Mmh. Ensuite, et c'est le premier cessez-le-feu durable qu'espère Donald Trump depuis le début de la guerre. Donc cessez-le-feu, libération de tous les otages. Alors ceux qui sont vivants, on parle d'une vingtaine d'otages et peut-être l'équivalent aussi d'une trentaine d'otages décédés dont les corps seraient rendus à Israël. Cette libération des otages et le rendu des dépouilles serait suivi par la libération de 1700 détenus palestiniens en Israël, avec notamment, et c'est très important, 250 détenus palestiniens qui sont condamnés à perpétuité. C'est un geste majeur de la part d'Israël. En échange, le Hamas s'engagerait à désarmer, et ceux qui accepteraient ce plan pourraient être amnistiés, ceux qui le refusent pourraient être expulsés, avoir un sauf-conduit pour quitter le territoire de Gaza. Donc c'est vraiment un plan qui est très important parce que il semble avoir l'assentiment du Qatar, non seulement du Qatar, mais aussi de plusieurs pays arabes qui seraient chargés de mettre en place une force de stabilisation qui se déploierait progressivement lorsque Israël considérerait que la sécurité, sa sécurité, serait assurée. Donc c'est
visiblement
un plan
cette feuille de route effectivement a été validée, Didier François, par plusieurs dirigeants arabes et musulmans. Il a cité le roi de Jordanie, absolument, le président égyptien, le président indonésien, mais aussi le président turc. Oui. Il le dit, on n'a jamais été aussi proche d'un plan de paix à Gaza. Est-ce qu'il a raison ce soir?
Honnêtement, il y a eu un énorme travail qui a été fait depuis plusieurs semaines pour essayer de faire converger tout le monde. Parce qu'on voit bien qu'on part de choses très différentes. On part d'un gouvernement israélien qui voulait, l'extrême droite israélienne, poursuivre la bataille dans Gaza, avec une partie du gouvernement qui voulait l'expulsion des Palestiniens de Gaza, voire l'annexion de la Cisjordanie. Ça, Donald Trump, aujourd'hui, l'exclut. Ce qui est une chose importante. L'exclusion de la fin, la poursuite de la colonisation en Cisjordanie et de l'expulsion des Palestiniens de Gaza, c'est quelque chose qui est très importante et qui a été discuté avec les États arabes de la région qui participent à ce plan. Ça a aussi été discuté avec les Français. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, le président Macron
réagit ce soir.
Voilà. Donc ça, c'est la première phase. Et c'est une phase vraiment importante qui dépend néanmoins d'une chose fondamentale, qui serait le cessez-le-feu. Or, aujourd'hui, ça, c'est la seule chose qu'on n'a pas encore la réponse du Hamas.
Parce que pour l'instant, on est d'accord que l'offensive terrestre, elle est toujours en cours.
Alors, l'offensive terrestre s'arrêterait sur la ligne de front actuelle et puis quelques jours après les 72 heures où les otages seraient libérés et les prisonniers palestiniens libérés également, enfin bien que ce soit des otages et des prisonniers, c'est pas la même chose, on aurait donc à ce moment-là la possibilité d'un retrait des forces israéliennes, mais pour l'instant on n'est pas encore rentré dans les détails. Pour l'instant, le cessez-le-feu qui serait en fait le début de toute chose n'est pas encore entré en œuvre, puisque le Hamas n'a pas encore répondu. La deuxième chose importante, et c'est là, c'est compliqué, il faut bien regarder dans les détails, en fait, ça ne serait pas pour l'instant vraiment la communauté internationale qui dirigerait Gaza. Puisque parallèlement à ce comité de paix qui piloterait le suivi du processus, il y aurait la mise en place d'un comité palestinien apolitique et technocratique qui, lui, gérerait les affaires courantes.
Donc il y a une autorité apolitique, technocratique, voilà, supervisée elle-même par ce comité mené par Tony Blair.
Ça, c'est une contre-proposition des Américains et des Israéliens à la proposition des Français et des Arabes qui était de mettre l'autorité palestinienne réformée. Donc eux estiment, parce que Netanyahou ne veut pas entendre parler d'un retour du Fatah et de l'autorité palestinienne directement, donc ce qu'il explique, c'est que dans un premier temps, dans une phase de transition, on mettrait ce gouvernement technocratique en place, soutenu par une force de stabilisation, c'est-à-dire que ça serait des militaires essentiellement égyptiens et jordaniens qui viendraient appuyer une police palestinienne en accord et en coopération avec les Israéliens.
Et pas française, puisqu'on se souvient qu'Emmanuel Macron avait évoqué justement l'appui de forces françaises.
En formation, c'est pas impossible, mais ça n'a pas été annoncé.
Ça n'a pas été annoncé.
Pour l'instant, il y aura certainement un appui, peut-être en termes, par exemple, de logistique, parce qu'en toute manière, on travaille déjà avec les Jordaniens et les Égyptiens, donc, et avec les Palestiniens. Donc, oui, il y aura quelque chose qui sera fait. Et enfin, si je peux finir, ça, c'est très nouveau dans la bouche de Donald Trump et de la Maison Blanche. Une fois que cette transition, si elle venait à exister, la reconstruction et une autorité palestinienne réformée pourraient être mis en place, ce qui permettrait un chemin crédible vers l'autodétermination et la création d'un État palestinien, là, dans la bouche. Alors, de la Maison-Blanche, c'est quand même étonnant, même si Donald Trump précise bien que pour Benjamin Netanyahou, l'État palestinien n'a pas lieu d'être. Mmh. Mais on voit bien qu'il se met dans une perspective qui peut satisfaire les Européens et les Arabes.
Mais alors, pardon, moi j'avais une question. Que vient faire Tony Blair là-dedans? Ancien alors, Premier ministre britannique, qui piloterait donc ce comité de la paix, sorte de comité de supervision donc de cette autorité temporaire qui serait en charge de cette paix à Gaza. Que vient faire Tony Blair? Il réagit ce soir, il salue le plan audacieux et intelligent de Donald Trump, puisqu'il est au cœur de ce dispositif, Ulysse Gosset, Tony Blair.
Absolument, c'est le retour de Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, qui était en coulisses depuis des semaines. Il est même venu à Paris rencontrer le président de la République en toute discrétion, ça n'a même pas été annoncé officiellement. Mais effectivement, il est engagé dans un plan. Il faut savoir que Tony Blair, depuis qu'il a quitté le pouvoir, a constitué un institut qui est chargé de prendre en charge un certain nombre de problématiques mondiales et notamment essayer de trouver une solution à Gaza. Et donc c'est lui qui va être un peu le super administrateur. Vous aurez Donald Trump qui va superviser le Conseil de la paix, les négociations avec les Israéliens et les Palestiniens, et puis un super administrateur qui serait Tony Blair. Il y a un autre personnage très important dans cette dynamique de négociation qui est le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, qui lui aussi a été rappelé aux affaires par le président américain pour négocier en particulier avec les pays arabes. Pourquoi ? Parce que pour les pays arabes, l'enjeu c'est de rejoindre de nouveaux accords d'Abraham, c'est-à-dire l'idée d'une coexistence pacifique au Proche-Orient, un nouveau Proche-Orient, c'est un peu la formule
entre Israël et les pays arabes.
Entre Israël et les pays arabes sous l'égide des Nations Unies, des États-Unis, avec en ligne de mire évidemment avant tout l'Arabie Saoudite. Ce qui est très important au-delà du plan de paix qui a été donc annoncé par Trump, accepté par Netanyahou, c'est que on a appris que à la Maison Blanche ce soir il s'est passé quelque chose d'absolument unique. Donald Trump a décroché son téléphone et il a appelé le Premier ministre du Qatar et il l'a passé au Premier ministre israélien Netanyahou et il lui a demandé de s'excuser. Et qu'a fait Netanyahou?
Il s'est excusé. On le rappelle, pour les bombardements de Netanyahou,
pour avoir bombardé le Qatar, un immeuble de Doha, la capitale du Qatar, où se trouvait théoriquement des dirigeants du Hamas que Israël voulait éliminer. Donc cette scène absolument étonnante, le Premier ministre israélien qui s'excuse au téléphone devant Donald Trump et ensuite ça fuite évidemment dans la presse, donc tout le monde est au courant. Et si j'en parle, c'est parce que pour Netanyahou, la situation est extrêmement difficile. Il va devoir maintenant rentrer en Israël, être porteur de ce plan de paix et affronter ceux qui sont en total désaccord avec lui et qui ne comprennent pas ses excuses publiques pour ce que Israël voulait faire à Doha. Donc on va peut-être avoir une crise politique en Israël, peut-être des élections anticipées et en tout cas une situation très difficile à gérer pour Netanyahou qui évidemment pourrait s'en sortir si les otages sont libérés et donc c'est ce que tout le monde attend. Et ce soir, en Israël, il y a évidemment un immense espoir pour les familles de voir enfin leurs proches, ceux qui sont vivants, pour rentrer au pays, si j'ose dire, et pour ceux qui sont morts, que leurs dépouilles soient rendues à leur famille.
48 otages, visiblement, à l'heure qu'il est, vivant ou mort. Rachel Binaz, vous soutient intervenir.
Oui, plus que les excuses, qui va être très difficile à défendre pour le Premier ministre israélien, c'est la question, en fait, des détenus qui vont être libérés. On sait que c'est un sujet extrêmement sensible en Israël. La dernière fois qu'Israël a fait ça, il se trouve qu'un certain nombre de ces prisonniers relâchés ont participé aux actes du 7 octobre.
Vous disiez, Ulysse, 1700 détenus libérés.
1700
oui. Et il y en a plusieurs centaines. Dont 250 qui ont été condamnés à perpétuité, ça veut dire coupables de terrorisme. Et vous avez raison de rappeler, parce que le Hamas était dirigé par l'un de ces détenus palestiniens, Sinwar, donc qui a été libéré par les Israéliens.
C'était
l'orchestre du pogrom du 7 octobre. Mmh. Et je rappelle l'autre date importante. Ce soir, c'est un fait majeur qui s'est produit à Washington. Mais dans 8 jours à peine, anniversaire tragique de pogrom du 7 octobre. Pour les Israéliens, ça va être une situation très difficile.
Et ensuite, de la mort d'Itzhak Rabin. Il y a énormément de commémorations très, très sensibles en Israël. Mais en plan audacieux, on l'a dit, avec beaucoup d'incertitudes quand même. La libération des otages, ne serait-ce que la libération des otages, on n'est pas sûr que le Hamas lui-même a expliqué qu'il ne les avait pas tous, qu'il en avait perdu certains. C'est tout à fait probable que d'autres groupes armés s'en soient emparés parce que ils ont une valeur marchande. Oui. Donc, est-ce que le Hamas est en mesure aujourd'hui de tous les rendre? Ça va être une question avec un point d'interrogation. Il y a également l'enjeu du retrait des forces israéliennes. Est-ce que Israël acceptera ou pas de totalement faire l'impasse du contrôle de la bande de Gaza. Et puis, le désarmement du Hamas. Le désarmement du Hamas, alors, on imagine une force, un pays arabe, par exemple, qui contrôlerait cela. Quel pays arabe, aujourd'hui, serait en mesure de contrôler que le Hamas s'est désarmé, avec les risques que ça représente et ce que ça veut dire, c'est-à-dire contrôler des maisons, prendre des risques de représailles, c'est extrêmement fort et en ce sens c'est tout à fait audacieux.
Il va l'avoir son prix Nobel de la paix, Donald Trump, si ça marche. Didier François. On a tendance, c'est vrai, parfois à se moquer un petit peu de ce souhait de Donald Trump de vouloir obtenir le prix Nobel de la paix. En l'occurrence, s'il arrive là réellement à instaurer ce plan en 20 points.
Après, les ressorts de ses motivations ne peuvent effectivement être étranges, mais enfin, si ça marche, tant mieux. Mais la vraie question, c'est encore une fois, il y a quand même beaucoup de si pour l'instant. Et comme disait ma grand-mère, avec des si, on met Paris en bouteille. Donc pour l'instant, cessez le feu, on va voir. Libération des otages, vrai sujet. Je pense que le Hamas a les capacités de faire pression sur les autres groupes. On l'a vu dans les quelques phases, ils le feront.
Vous avez remarqué qu'il n'y avait aucun calendrier annoncé par la Maison-Blanche.
Mais pas de calendrier.
Oui, mais à partir de quand, 72 heures de quand, il y a beaucoup, effectivement, d'incertitudes, même si le plan est accepté par le Hamas, ce qui, pour l'instant, n'est pas le cas, il faut quand même le rappeler. Et puis, effectivement, après, comment on l'applique, comment on le met en œuvre, c'est évidemment extrêmement difficile et compliqué. Il y a tellement d'embuscades qui peuvent être tendues par les deux parties que cela mérite la prudence ce soir, même si, encore une fois, l'annonce même de ce plan est un événement majeur.
En fait, la seule solution, c'est qu'il y ait un accord politique. Parce qu'on le voit bien, l'armée israélienne, qui est quand même certainement la plus puissante de la région, n'a pas été capable de le faire par les armes. Donc c'est pas les armées arabes, et c'est même pas l'armée française qui serait capable de le faire, soyons sérieux. Donc en fait, ça ne pourra fonctionner que s'il y a un accord politique sur le mode de gestion de l'autorité palestinienne et de l'État palestinien. Or ça... il y aura quand même des vraies difficultés.
Merci beaucoup. Merci Didier François. Merci Ulysse Gosset.